Bonsoir à tous. Je crois que j'ai pas besoin de me représenter. Voilà. Je suis toujours laïc dominicain, dans l'adoration, hyper motivé par ce service incroyable où on aide comme on peut à faire en sorte que l'adoration continue et touche le plus de monde possible. Donc on est à la 6e conférence. Ce soir, c'est plus particulièrement sur la brebis perdue. Comment aller chercher une brebis perdue? Comment ramener les brebis égarées que le Seigneur nous présente? Au niveau du plan de ce soir, c'est vraiment pour faire le lien avec ce qui précède. J'ai, depuis quelques mois, pris le temps d'étudier dans le détail les 10 plaies d'Égypte, tout le début de l'Exode, parce que je trouvais que c'était nourrissant, puis parce que j'avais un travail personnel à faire sur quelque chose que je suis en train d'écrire, et j'avais besoin de comprendre un petit peu mieux ce que veulent dire ces premiers chapitres de l'Exode, qu'on connaît un petit peu comme ça, parce que ça fait partie des passages de la Bible, peut-être plus agréables à lire, parce que c'est assez concret. Il y a beaucoup de choses à dire sur ces différents chapitres. Et dans la continuité de ce qu'on a vu, la dernière fois, on avait vu comment on exerce l'autorité sur les personnes que le Seigneur nous confie. Cette fois-ci, c'est plutôt comment on s'occupe des personnes que le Seigneur nous envoie, qui peuvent être des personnes sous notre responsabilité, mais qui peuvent être aussi des personnes qui n'ont rien à voir avec nous et qu'on va croiser. Le Seigneur va les mettre sur notre chemin et on va jouer le rôle d'un berger qui ramène une brebis dans l'enclos du Seigneur, qui contribue un petit peu à ramener une brebis sur tel ou tel aspect de sa vie. Voilà, quelqu'un qui, quelqu'un qui boit trop et on va le toucher parce qu'il va boire un peu moins après nous avoir vu. Voilà, ou quelqu'un qui oublie le Seigneur, qui va penser un peu plus au Seigneur. Voilà, ça peut être sur n'importe quoi. Le principe, c'est le mouvement d'un berger qui va chercher une brebis. Donc, au niveau du cheminement de ce soir, on va parler d'abord de l'égarement à la réintégration de la bergerie, la première partie, c'est-à-dire ce qui fait qu'une brebis s'égare et comment on va aller la chercher et comment on va la ramener jusqu'au moment où elle rentre dans la bergerie. Je trouvais que cette parabole était belle parce que elle était riche de sens, on comprend assez bien cette image-là. En deuxième partie, les différents lieux d'égarement et les lieux de jugement, c'est-à-dire qu'on va trouver dans les 10 plaies d'Égypte, qui sont un panel des différents lieux dans lesquels une brebis peut s'égarer, des lieux types, parce que il y a des péchés finalement qui sont types, et on va tous se perdre dans des ronces, ou dans un trou, ou dans un lieu lointain, ou dans un lieu obscur, parce qu'on est des brebis qui peuvent s'égarer, et les 10 plaies d'Égypte sont éclairantes là-dessus. Donc on va revenir dessus et approfondir un peu plus que nous ne l'avons fait les fois d'avant, les 10 plaies d'Égypte avec leurs conséquences pratiques, la manière dont on peut les interpréter, les conséquences pratiques, à la fois pour ramener les brebis et pour exercer un jugement contre les mauvais bergers. Parce que pour ramener une brebis, il faut réussir à la dégager de la situation dans laquelle elle est, et donc des éléments autour d'elle qui exercent une mauvaise emprise sur ces brebis. Voilà, donc premièrement, le mouvement de la brebis qui s'égare jusqu'au moment où on arrive à la réintégrer à la bergerie. Et deuxième grande partie, tous les lieux d'égarement et les lieux de jugement des brebis et des pasteurs des brebis, vus à travers les 10 plaies d'Égypte. Alors pour la première partie, le mouvement que suit une brebis, je vais prendre un passage dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 50. On connaît peu ce passage-là. Moi j'aime bien prendre des passages qu'on connaît peu, parce que finalement ça nous permet de voir que ce qu'on lit dans l'évangile régulièrement, on le retrouve partout dans la Bible, quoi. C'est pas, la plupart des choses que Jésus a dites n'étaient pas neuves. On ne faisait que redire des choses, mais en les rendant un peu plus compréhensibles, parce qu'on avait tendance à oublier le sel qu'il y avait dans la parole de Dieu, et Jésus, il n'a fait que les organiser et montrer à nouveau ce qui était le plus important, et puis accomplir effectivement certaines choses qui étaient encore voilées dans la parole de Dieu. Donc on est au chapitre 50 du prophète Jérémie, qui est un prophète du temps de l'exil, qui n'a fait qu'avertir pendant toute sa vie de prophète, avertir les princes, les rois, le peuple de la menace imminente, et puis voir l'accomplissement de ces menaces comme si ça n'avait servi à rien. C'était Jérémie, c'est celui qui s'est pris des murs pendant toute sa vie de prophète. C'est des, voilà, quand on a, moi j'aime bien lire Jérémie quand je me sens pas compris, quand j'essaie de dire des choses et que ça passe pas, ben, je lis Jérémie parce que lui il crie en disant Seigneur, voilà, je m'en suis encore pris une dans la figure parce que tu m'as demandé de foncer contre le mur, et voilà. Donc chapitre 50 à partir du verset 6 jusqu'au verset 17. Des brebis perdues, c'est ceux qui étaient devenus mon peuple. Leur pasteur les avait égarés. Il les avait fait errer dans les montagnes. Elles allaient de montagne en colline, ne se souvenant plus de leur bercail. Israël était une brebis isolée. Des lions l'ont pourchassée. En premier lieu, le roi d'Assyrie l'a entamée. Ensuite, Nabucodonosor, roi de Babylone, l'a achevée jusqu'aux os. Eh bien, ainsi parle le Seigneur le Tout-Puissant, le Dieu d'Israël, je vais sévir contre le roi de Babylone et son pays, comme j'ai sévi contre le roi d'Assyrie. Je vais ramener Israël vers ses pâturages, et il paîtra le Carmel et le Bashan, et son appétit sera rassasié sur les montagnes d'Éphraïm et du Galaad. Pendant ce temps, à ce moment même, oracle du Seigneur, on cherchera la perversion d'Israël, mais elle aura disparu. Et les fautes de Juda, mais on ne les trouvera plus. En effet, je pardonne à ceux que je laisse survivre. Donc dans ce texte, on retrouve les grands moments de la vie d'une brebis qui s'égare et qui est réintégrée à la bergerie. Premièrement, la cause de l'éloignement, il est dit, les pasteurs des brebis les avaient égarés, ils les avaient fait errer dans les montagnes. Donc il y a un défaut de la part de ceux qui avaient la responsabilité des personnes en question, qui du coup, sous le coup de cette perte de repères, se sont égarés. Voilà, il y a une circonstance atténuante dans le fait que ces brebis se soient égarées. Donc c'est un scandale en fait, hein. C'est quand c'est un responsable, quand c'est quelqu'un qui exerce une responsabilité, des parents, des responsables politiques, nous dans notre travail avec ceux sur qui on a une responsabilité, des prêtres, des religieux qui incarnent l'autorité de l'Église et la direction à suivre, quand il y a un scandale, et ben il y a un risque que l'arbre se secoue et que des brebis s'égarent, voilà, ça fait scandale. Donc la cause de l'éloignement, ici c'est une cause possible, hein, bien sûr. Deuxièmement, la situation de la brebis. Les brebis ont oublié leur pâturage. Donc les brebis ici, c'est le peuple d'Israël, dans cet exemple-là. Elles ont oublié de leur pâturage et donc elles sont en danger. Elles sont loin de l'enclos où elles étaient protégées. Elles sont mises en danger et on a donc un premier qui les égare, c'est le roi de Babylone, qui est un premier pasteur, on va dire, et le roi d'Assyrie qui l'entame. C'est-à-dire que c'est quelqu'un d'autre qui va coopérer avec le premier ennemi des brebis, et qui va les achever, c'est-à-dire quelqu'un qui a une autre arme, je dirais, une arme qui n'est pas une arme pour égarer, mais qui a une arme pour faucher, pour tirer dessus, pour, vous voyez, pour, donc ça peut être une bête sauvage ou autre, et qui est le roi d'Assyrie, qui l'achève jusqu'aux os. Ah non, pardon, c'est d'abord le roi d'Assyrie, et ensuite Nabucodonosor, roi de Babylone, voilà, dans cet ordre-là, qui l'achève, une fois qu'elle est sans défense. Donc on voit bien, il y a une coopération dans le mal, ils se partagent les rôles, parce qu'il y en a un qui arrive bien à égarer les brebis, et l'autre qui arrive bien à voilà, comme un rapace un petit peu, Jésus disait, là où est le corps, là se rassembleront les vautours. Hein. Voilà, une personne qui est morte à la grâce, elle est vulnérable aux vautours, en fait. C'est-à-dire, ici, au roi de Babylone, qui incarne celui qui profite de la faiblesse de celui qui n'a plus de défense. On a le Seigneur qui dit, ainsi parle le Tout-Puissant, je vais sévir contre le roi de Babylone et son pays, comme j'ai sévi contre le roi d'Assyrie. Le Seigneur exerce un jugement. Donc le Seigneur ne précise pas, mais il dit, je vais sévir, c'est-à-dire je vais juger les mauvais pasteurs. On voit dans ce passage-là et dans bien d'autres passages qui montrent le mouvement de la brebis qui se perd et qui à un moment est réintégrée, on voit qu'il y a forcément, pour pouvoir la réintégrer, un jugement à faire des mauvais pasteurs, puisqu'ils ont une autorité malsaine sur les brebis en question, sur les personnes qui s'égarent. Mais ce texte-là ne précise pas comment ces pasteurs sont jugés. Quatrièmement, le berger ramène la brebis, la nourrit et la soigne. Donc ça, on le voit, c'est le Seigneur qui dit « Je vais ramener mon peuple ». Je vais ramener mon peuple, donc ça veut dire cette quatrième étape, ce berger qui vient, qui ramène et qui soigne. Petit A, il y a d'abord le lieu de la brebis à trouver. Voilà. Si on ne sait pas où une brebis s'est égarée, c'est-à-dire est-ce que c'est dans un trou, est-ce que c'est sous des ronces, est-ce que c'est exposé au soleil comme morte dans le désert, est-ce que voilà, on ne peut pas forcément venir la chercher. Il y a besoin de savoir où elle est. pour la trouver dans ce lieu. Donc là, c'est le Seigneur. Bon, bah, on imagine que le Seigneur, qui est omniscient, il arrive bien à agir, tout seul ou par l'intermédiaire de personnes. Et puis ensuite, le Seigneur, donc le pasteur, donc ça c'est pas raconté non plus dans ce passage-là, il faut que le pasteur arrive à s'aventurer vers la brebis, donc à se frayer un chemin vers ce lieu où elle s'est égarée. Et ensuite, il faut que la brebis se laisse faire, parce qu'on peut pas attraper une brebis qui ne se laisse pas faire. Petit dé, il faut la redescendre en la portant sur son cœur, en la soignant, en l'unifiant, voilà, en rassemblant un peu les morceaux d'elle-même qui sont divisés, parce que le péché nous divise avec nous-mêmes, hein, notre corps est révolté contre notre âme et notre esprit, etc. Enfin, on devient désunis. Et dernière étape, la mettre dans la bergerie en sécurité. Donc on a le Seigneur qui dit qu'il cherchera la perversion d'Israël, mais elle aura disparu, et les fautes de Juda, mais on les trouvera plus. En effet, je pardonne à ceux que je laisse survivre. Donc là, ça accentue l'idée que le Seigneur va soigner la brebis qui est son peuple, ici, en pardonnant les fautes que son peuple avait commises. Donc si je reviens sur ces différentes étapes, parce que là on a vu ça sur un exemple donné, avec deux mauvais pasteurs et avec un peuple qui incarne la brebis et puis le Seigneur qui vient la chercher, parce que là on ne détaille pas les causes secondes ici. Les causes secondes, c'est le Seigneur qui va envoyer des personnes particulières, des peuples particuliers. Le Seigneur, la plupart du temps, passe par des médiations. Alors, les causes d'éloignement. Premièrement, on reprend les étapes. Il y a le scandale des pasteurs, on a vu, qui est une cause atténuante. C'est-à-dire que ça va atténuer la responsabilité des brebis, le fait qu'elles se soient égarées. Deuxièmement, l'envie de s'émanciper. Donc là, on a le fils prodigue, hein, qui va voir son père et qui lui dit « Donne-moi l'héritage, j'ai envie de me sentir libre, etc. » Ça nous parle parce qu'en France, c'est très actuel. C'est « Je veux la liberté, etc. » Donc dans Luc 15. Hein. Troisièmement, l'imprudence. Exemple en Luc 10:30. En Luc 10:30, on a l'homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Jéricho, c'est l'endroit le plus bas du monde en topographie. Niveau symbolique, ça veut dire je descends dans les profondeurs du péché. Voilà, je me mets à, je sais pas, à me droguer, je me mets à critiquer, je me mets à désespérer. Voilà, c'est ça, descendre à Jéricho. Et puis on se fait attaquer par les brigands parce qu'on est vulnérable. Voilà, on retrouve. Le premier mouvement, c'est la brebis qui s'éloigne et qui est imprudente. Et ensuite, il se fait ramasser par des bandits, parce qu'il est en danger. Le fils prodigue, c'est la même chose. Hein. Il se retrouve finalement à la merci des gardiens de porcs, alors que normalement, c'était l'impureté absolue, les porcs dans la culture juive. Donc on a symboliquement descendre au plus bas. Quoi. Voilà, je me mets à fouiller dans les poubelles, je me mets à finalement à faire des choses qu'on ne fait pas d'habitude. Autre cause d'éloignement, le berger qui est frappé. On a ça en Zacharie 13, 7. Frappe le berger et les brebis seront dispersées. Et il y a deux manières d'interpréter le frappe le berger. C'est premièrement le berger qui est frappé d'aveuglement, quelqu'un qui dévie, voilà, un responsable qui ne joue pas son rôle et qui fait un scandale et qui va décrocher beaucoup de personnes et qui va égarer beaucoup de personnes. Et puis frappe le berger, c'est aussi le berger qui décide d'aller lui-même à la recherche de brebis, qui va être frappé, qui va accepter d'être frappé à la place des brebis par le loup, ça c'est le Christ, et en étant frappé, donc en se faisant absent, eh bien les brebis, ses propres brebis, si elles n'ont pas assez prié, si elles n'ont pas suffisamment préparé ce temps-là pour prendre le relais, eh bien vont se retrouver dispersées, parce qu'elles vont se retrouver face à elles-mêmes en se disant bah, « je n'avais pas suffisamment entretenu ma foi et je suis pas en mesure de moi-même de prendre le relais comme berger ». Voilà. Différentes causes d'éloignement. Puis on a, bien sûr, on a les passions, hein, David et Bethsabée, David qui commence par faire la sieste au lieu de soutenir les, il fait au lieu de soutenir la guerre contre Moab. Donc c'est dans 2 Samuel au chapitre 11 et 12. Et bien au lieu de prier pour son armée qui fait la guerre, il mange, il boit, il fait la sieste. Et puis il succombe au charme de Bethsabée, forcément, qui se baigne dévêtu sous ses fenêtres. Il y a un concours de circonstances, j'imagine. Et Dieu envoie Nathan pour le ramener. Voilà, au chapitre 12, on a le berger qui est suscité par Dieu, c'est le prophète Nathan, qui lui raconte une parabole pour lui expliquer, mais là ce que tu as fait c'est horrible, non seulement tu as commis l'adultère, mais en plus tu as... Donc ça, c'était un peu comme le premier esprit d'égarement qu'il a eu. Et le deuxième esprit d'égarement, c'est je commets un meurtre parce qu'après tout, il faut que je maquille mon premier méfait. Voilà, on a l'éloignement, un deuxième éloignement. Donc ces causes d'éloignement, voilà, c'est soit des personnes qui nous égarent, soit nous-mêmes qui sommes imprudents. Finalement, en résumé, c'est le péché, hein, le péché de nous-mêmes, enfin d'une brebis donnée, et ou le péché des personnes qui étaient responsables de cette brebis-là. Voilà, les causes d'éloignement.